Écoutez, retournons maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Je reprends les versets de la semaine dernière. Et je vais donc aujourd'hui conclure, si on peut dire, mais en tout cas m'arrêter dans cette deuxième partie sur cette série « L'homme à l'image de Dieu ». Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors résumons quelques points que nous avons vus dans le premier message la semaine dernière. Nous nous sommes principalement arrêtés sur la création-formation de l'homme. Et en lisant les textes tels qu'ils se présentaient à nous, nous avons fini en nous interrogeant qu'est-ce qui nous différencie des animaux. Qu'y a-t-il de si différent entre les êtres humains et les animaux? Alors dit comme ça, ça paraît un peu brut, mais quand on voit les textes, nous avons vu que la Bible les appelle des êtres vivants, comme les hommes. Donc, eux et nous, nous sommes des êtres vivants. Donc, vu que dans Genèse 2, que Dieu les a formés, comme il a formé les hommes, le même verbe. Et nous avons vu dans le livre de la Genèse qu'ils ont reçu le même souffle de vie, qu'on l'appelle Neshama ou qu'on l'appelle Ruach, ils ont reçu le même souffle de vie que les hommes. Et pourtant, nous l'avons vu aussi, il est écrit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Alors, comment concilier tout cela? Nous avons dit alors que la différence entre l'humanité et les animaux n'est ni dans la génétique, ni dans la constitution biologique. Et la science nous le dit, le génome humain est parfois très proche, ou plutôt le génome des animaux est parfois très proche du génome humain. Mais en cela, ce n'est pas surprenant, puisque nous venons de la même terre, des mêmes éléments, et nous avons été formés par la même main. Le projet de la vie est finalement le même, que ce soit dans les animaux, qu'il soit dans l'humanité. Donc nous sommes proches, peut-être plus proches même que ce que nous le pensons, de nos amis les bêtes. La différence est donc ailleurs. Et la différence est dans la finalité du projet poursuivi par Dieu. Dieu, au-dessus de tout le reste des êtres vivants, voulait en faire un qui soit à son image et selon sa ressemblance. Il en voulait un être particulier avec qui et exclusivement il établirait une relation toute spéciale. Une relation qui l'amènerait plus tard à devoir consentir le plus grand des sacrifices pour sauver cette création de la destruction. Le sacrifice, c'est celui de Jésus. Et cet être à part, le dernier de la création, c'est l'Adam, l'être humain, l'homme. Tiré de la même terre que les animaux, formé par la même main créatrice, ayant reçu le même souffle de vie du Créateur, mais étant malgré tout différent de tout le reste de la création, à cause de ce projet, il est porteur de l'image de son Créateur. Et sur cela que nous allons nous interroger ce soir, qu'est-ce donc que être à l'image de Dieu selon sa ressemblance? Je voudrais citer Genèse 1, 27, telles que les versions anciennes le traduisaient, par exemple la Bible Austerval, la Darby, la Martin. Genèse 1, 27 était ainsi traduit. Dieu créa l'homme avec un grand H à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il les créa mâle et femelle. Première chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est l'humanité tout entière, sans différenciation, considération de genre qui a été créée à l'image de Dieu. C'est ensuite que la différenciation sexuelle est mentionnée. J'insiste sur ce point à cause de lectures parfois très superficielles et tendancieuses qui font un raccourci entre homme, humanité, Adam et mâle. Et ne voit qu'en lui seul, l'homme mâle, l'image de Dieu. Dans les temps que nous vivons, nous devons rappeler que l'homme et la femme et l'humanité tout entière ont été faits à l'image de Dieu. D'accord ? Sans distinction d'espèce, nous l'avons vu la semaine dernière, alors qu'il est dit que les plantes sont produites selon leur espèce, les animaux sont produits selon leur espèce. Par contre, il n'y a qu'une espèce d'Adam, qu'une espèce d'humain. Et la couleur de notre peau ne fait pas de nous des gens d'espèces différentes. Nous sommes tous issus du même sang, Paul le rappelle. Et en même temps, il n'y a pas de différence de genre. L'homme n'est pas plus porteur de l'image de Dieu que la femme. Mais mâle et femelle, nous portons tous l'image de Dieu. Nous avons tous été faits à la ressemblance de Dieu. Il a créé l'humain à son image, selon sa ressemblance. Et donc, vient cette expression à l'image. Et c'est là que nous trouvons l'investissement particulier de Dieu dans l'humanité. Et à travers cette expression, nous comprenons que Dieu élève l'homme au-dessus des animaux et le place en fait juste à peine en dessous des anges. Si je veux être audacieux, j'y reviendrai tout à l'heure, je peux même citer la Bible en disant qu'il le place juste en dessous de lui-même. L'homme est donc à l'image de Dieu. Alors les spécialistes du texte aiment à débattre autour de la traduction la plus fine. Pour certains, il est l'image de Dieu. Pour l'autre, il est comme l'image de Dieu. Pour d'autres, il est selon l'image de Dieu et on joue autour de ça. Ces textes-là sont tellement compliqués qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour, c'est vrai. Mais ce n'est pas mon idée de pousser le raisonnement jusqu'à ce point. Je veux me contenter de prendre le texte tel comme il est, tel qu'il nous est présenté dans nos versions second, ça nous ira tout à fait, il est à l'image de Dieu. Image, c'est le mot tselem. Plus tard, ce mot tselem, image, deviendra idole dans la Bible. Mais pas dans la Genèse. Une idole, c'est une représentation dévoyée de Dieu, par exemple le veau d'or. Donc il y a un côté négatif dans cette notion d'image. Mais pas dans le livre de la Genèse, pas au début. Dans le texte de la Genèse, il y a une idée positive. L'homme est l'image positive et d'une grande valeur de Dieu. Et je reviens à ce texte de Psaume 8 que je mentionnais, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ». Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Donc, être à l'image de Dieu, c'est quelque chose de très positif et d'une grande valeur. Maintenant, certains comprennent cette expression ainsi. Ils vont dire, ils la voient comme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça qu'il l'interprète. Et alors il voit dans l'image notre nature humaine propre, profonde, donnée lors de l'acte créateur. C'est notre capital de base. Identique chez tous les humains, nous avons tous cette image, cette nature profonde. Et comme il a été écrit, l'image est alors la semence divine en l'homme. La semence divine en l'homme. Seulement, cette création à l'image de Dieu ne ferait de lui qu'un petit enfant. Nous avons tous l'image, mais cette image est restreinte et elle doit se perfectionner. Et c'est là qu'interviendrait la question de la ressemblance. Et l'homme deviendrait alors toujours plus ressemblant à Dieu à travers ses choix, ses actes libres, orientés vers le bien et par la relation qu'il développe avec Dieu. Ainsi, tous les humains serait porteur de l'image de Dieu, c'est notre nature, mais nous n'aurions pas tous atteint la même ressemblance, le même développement. Alors ça, c'est une approche que l'on trouve beaucoup, notamment dans l'Église catholique romaine et dans beaucoup de théologiens qui gravitent autour de cette Église. Donc c'est un volume impressionnant de textes autour de cette interprétation. Elle est intéressante, mais elle ne suit pas exactement le texte. Parce que dans le texte hébreu, entre image et ressemblance, il n'y a aucune conjonction. Le texte hébreu ne dit pas « à l'image et à la ressemblance de Dieu », mais il dit « à l'image de Dieu, d'après sa ressemblance, selon sa ressemblance ». Ça veut dire que les deux expressions sont synonymes, voire même interchangeables. Ce n'est pas l'une et l'autre, mais c'est l'une l'autre. Autrement dit, il ne faut pas faire une grande différence entre image et ressemblance. Image et ressemblance décrivent toutes les deux ce qu'était la condition de l'homme à sa création. Pour beaucoup, il ne peut pas être question ici de ressemblance physique à l'égard de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est esprit, donc immatériel, donc incorporel. Donc quand on parle d'image, on ne peut pas parler de ressemblance physique puisque Dieu n'est pas physique. Au contraire, le corps de l'homme a plus de ressemblance avec le corps animal qu'avec Dieu. Bon, même si on ne ressemble pas aux animaux, mais on peut observer qu'on a des membres comme beaucoup des animaux, des yeux, voilà, on a tout à peu près, on est à peu près tous équipés de la même manière, même parmi les insectes. On sent qu'il y a beaucoup de points communs. Maintenant, certains, en raison de ce qu'on appelle les théophanies, l'incarnation de Jésus en l'homme, certains estiment quand même que le corps de l'homme dit quelque chose de l'apparence de Dieu. Dieu est esprit, il n'a pas peut-être de substance physique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas une forme. C'est ce qu'Ézéchiel évoque lorsqu'il a la vision du char de Dieu. Et il dit, il le voyait là un peu comme une forme humaine, mais tout en feu. Et peut-être alors que dans la constitution de l'homme, il y a quelque chose qui rappellerait la forme de Dieu. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que l'autre jour j'en parlais avec ma femme en lisant Ézéchiel, je dis, tiens, c'est intéressant. Ézéchiel voit le char de Dieu. Il voit une révélation extraordinaire, et pour ceux qui connaissent le texte, il voit ce qu'il appelle des chérubins avec quatre faces. Une face d'homme, de lion, d'aigle et de veau. La question que je me suis posée, mais ça c'est vraiment une question, il faut pour avoir du temps à perdre. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, mais les chérubins, depuis quand ont-ils ces faces? Est-ce qu'ils ont ces visages parce qu'ils apparaissent à l'homme? Ou alors ont-ils toujours eu de toute éternité ces visages, laissant dire que avant même la création de l'homme, il y avait déjà des êtres avec un visage d'homme, un visage de bœuf, un visage d'aigle, un visage de lion. Comme si finalement, déjà, une partie du projet de Dieu sur terre, sur la création, existait au niveau des anges. Bon, c'est des questions, je n'ai absolument pas de réponse, mais j'ai trouvé ça, ma foi, je me dis, tiens, c'est bizarre, surtout par rapport à l'homme. Parce que le chérubin qui a une face d'homme, depuis quand a-t-il cette face d'homme? Est-ce que spécialement pour Ézéchiel ou l'a-t-il toujours eu? Tiens. Bon, néanmoins, personne n'a vu Dieu, la Bible dit. Laissez-moi vous dire que personne ne verra Dieu. On verra Jésus dans le ciel, mais Dieu on ne le verra jamais. Dieu est esprit. Il est partout, il remplit tout. Donc, on ne peut pas vraiment le voir. Donc, on ne va pas essayer de comparer notre forme apparence physique à Dieu. Donc, l'image que nous avons n'a rien à voir, à mon sens, quand même, avec l'image physique. Okay? Mais plutôt, ces deux mots nous parle d'une ressemblance morale. L'homme est un être moral. Et image et ressemblance nous disent que nous avons trois choses, une raison, une conscience, une volonté. Une raison, une conscience et une volonté. Et à cause de cela, nous sommes des êtres libres de choisir. Et c'est ce qui fait que nous sommes différents des animaux. Cela nous permet d'affirmer alors que l'homme, comme Dieu, possède une personnalité. Parce que nous sommes des êtres moraux, avec une liberté de choix, nous avons aussi une personnalité. La première, je reprends M. Descartes, la connaissance de soi-même. Je suis. Donc on n'a pas attendu les philosophes et la Renaissance, mais déjà dans la Bible, il y a cette notion de l'existence, de la reconnaissance de son existence. Et vous savez que ça trouble les animaux. Vous avez peut-être fait l'expérience du chat en face au miroir. L'animal est troublé. En face de lui-même, il est troublé. Mais quand vous mettez... Avec le temps, vous pouvez éduquer, mais un enfant va être surpris, mais va être captivé tout de suite par son image. Parce qu'il a la conscience de son existence. Je suis. Je suis. Alors après, il faut être vraiment pédopsychiatre pour rentrer dans toutes les définitions. Je ne sais pas à quel moment vraiment le bébé va avoir conscience de ce « je suis », mais je pense qu'il est vraiment là dans l'humanité. La deuxième chose, c'est une volonté, donc. L'homme peut déterminer la direction de sa vie. Après « je suis », il peut dire « je veux ». Souvent, il dit « je ne veux pas ». Ça aussi, comme j'entendais un prédicateur l'autre jour qui disait justement, il faut apprendre aux enfants à dire oui et merci, mais non, c'est très naturel à l'homme de dire non. Ça, tout de suite, ils savent dire non. Qui leur a appris à dire non? Mais un enfant, c'est dire non, je ne veux pas. Voilà. Je suis, je veux. Et dernière chose, qui caractérise l'homme, les sentiments. L'homme est capable de dire « j'aime » et plus encore de dire « je t'aime ». Je suis, je veux, j'aime. Et ça, c'est ce qui fait que l'homme est porteur de l'image de Dieu et qui est différent de tout le reste. À cela s'ajoute une capacité qui lui est propre, celle d'exprimer de manière intelligible sa personnalité. L'homme peut exprimer ce qu'il y a en lui. Et comment le fait-il? Alors tout à l'heure, je parlais de Descartes, maintenant je pourrais me tourner vers Jean-Jacques Rousseau, le discours sur le langage, c'est comment... Oui, je crois que c'est ça. La parole. L'humain est la seule créature douée de parole, sauf quand Dieu fait parler les ânes. Dieu parle. Et même au commencement était la parole. Et seul dans la création, l'homme a la faculté de la parole et du langage. Et ça aussi, c'est une manifestation de l'image de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, il peut exprimer sa personnalité par la parole et il peut exprimer sa personnalité par la capacité à créer. L'homme parle et l'homme crée. Et ça, ce sont des choses qui sont divines à la base. Il n'y a que Dieu qui peut exercer cela. Bien sûr, l'homme crée non pas comme Dieu. Dieu peut créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux. Mais l'homme crée en prenant soit ce qui vient de la terre, soit ce qui vient de lui-même. Ce qui vient de la terre va donner l'ingénierie, va donner toutes sortes de sciences, etc., etc. Et puis ce qui vient de lui-même va aussi se manifester dans la philosophie, dans l'art et dans beaucoup de choses comme ça. Et toutes ces choses, pour moi, c'est une expression de l'amour, de la grâce et du don de Dieu dans la vie de l'humanité. Si l'homme parle, c'est un don de Dieu. Si l'homme crée, toute œuvre de création est un témoignage de la bénédiction du Créateur sur l'humanité. Donc l'homme, un être moral. Une ressemblance, non pas physique, mais une ressemblance morale. Une image morale. Mais il faut encore aller chercher plus loin. Non pas simplement un être moral, mais aussi un être spirituel. Étant à l'image de Dieu, l'homme a été créé avec la pensée de Dieu. Parce que même quand il est athée, il ne peut pas s'empêcher de réfléchir à la question de la divinité et de la déité. Il n'est pas un peuple à travers les âges qui n'est pas réfléchi sur cette question de la divinité. Parce que la pensée de Dieu est dans le cœur de tout homme. Et cette pensée de Dieu se manifeste par une capacité unique pour l'adoration. Je ne parle pas, là je ne suis pas en train déjà de parler de l'adoration de notre Dieu, mais tous les peuples ont une forme ou autre d'adoration. Malheureusement, beaucoup de peuples se trompent dans l'adoration, adorant la créature ou adorant la pierre ou le bois au lieu d'adorer le Créateur. Mais l'adoration est un besoin spirituel fondamental de l'homme. Parce que même l'homme moderne qui veut vivre sans Dieu a besoin, malgré tout, d'adorer des choses. On ne peut pas faire autrement. Et en même temps, aussi, au-delà de l'adoration, le besoin de développer une relation avec Dieu. Ça, c'est la religion aussi. Tous les peuples ont besoin de développer une forme de religiosité. Religion, vous voulant dire relation. Et il y a besoin de cette relation. Parce qu'il y a la pensée de Dieu. Et on a beau faire tout ce qu'on peut, on ne peut pas enlever la pensée de Dieu du cœur de l'homme. Marx, Mao, Hitler ou Pol Pot, même avec tout leur camp d'extermination et tous leurs projets, n'ont jamais pu arracher du cœur de l'homme la pensée de Dieu. Et à côté de la pensée de Dieu, il existe une deuxième pensée, qui est celle de l'éternité. Cette image de Dieu, cette image spirituelle, nous amène donc à avoir la pensée de Dieu, mais aussi la pensée de l'éternité. Et ça se voit dans la conscience qu'a l'homme de la mort et de l'au-delà. Un animal meurt, il meurt. Et puis quand il est mort, bon ben les animaux le laissent. Mais l'homme a du mal à se résoudre à la mort. Et même si dans l'histoire, s'il y a eu des circonstances, s'il y a des peuples où on finit par, ok, la mort est tellement présente qu'elle est là et on a l'habitude, et dans nos sociétés, de toute façon, on a un gros problème avec la mort, c'est qu'on ne veut plus voir la mort. La mort ne devrait presque plus faire partie de l'expérience humaine. Autrefois, les grands-mères et les grands-pères mouraient dans les maisons. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, si on ne meurt pas à l'extérieur de la maison. Mais quelque part, on peut grandir, nos enfants peuvent grandir, grandir et grandir sans jamais avoir vu un mort. ce qui autrefois n'existait pas. C'est un moyen d'essayer de repousser l'idée de la mort. Mais malgré tout, elle reste là. Et cette conscience de la mort et de l'au-delà se voit dans le fait que l'homme est la seule créature à avoir développé des rites funéraires. De la crémation à l'enterrement, à parfois des pratiques occultes et ténébreuses, c'est vrai, mais dans tous les cas, on s'occupe des morts. On n'abandonne pas un mort, sauf vraiment cas exceptionnel, crise terrible, guerre ou autre, mais même en temps de guerre, même aujourd'hui, quand on se rappelle dans les champs de bataille de l'Est de la France, si on trouve des ossements, aujourd'hui encore, on a ce respect de récupérer les ossements et de faire des enquêtes pour voir qui est. Ils arrivent toujours à retrouver des poilus comme ça. On a quand même ce respect des ossements. Il faut vraiment avoir perdu... Je veux dire, il faut en arriver à des tragédies comme la Shoah pour ne même plus avoir respect des ossements. Mais là, on voit la perversion des hommes qui étaient là, qui avaient perdu complètement ce lien avec l'éternité, avec Dieu, et qui étaient complètement démonisés dans les actions qu'ils menaient. Mais l'homme, d'une manière générale, dans sa nature normale, a la conscience de la mort. Pourquoi ? À cause de l'immortalité de son âme. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est là, qui vit, et qui a besoin de se projeter, et qui sait qu'on va se projeter au-delà de l'éternité, au-delà de la mort dans l'éternité. Alors, je répète ça, donc, image et ressemblance. Je pense que c'est important de se rappeler ces points. Donc, ok, pas forcément une ressemblance physique, on ne s'est pas arrêté sur ça, mais une ressemblance morale. Une raison, une conscience, une volonté, qui se traduit par trois expressions simples. D'abord, je suis, j'ai une conscience de moi-même, je veux, j'ai une volonté, j'aime, je peux avoir des sentiments. Et c'est ce qui fait que nous sommes des créatures à part, porteuses de l'image de Dieu. Parce que, n'oublions pas, Dieu et je suis. C'est la première chose. Ensuite, Dieu parle, au commencement était la parole. Ensuite, Dieu aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les trois verbes les plus importants avec Dieu. Dieu est, Dieu parle, Dieu aime. Eh bien, on les retrouve avec l'homme aussi. Ensuite, la dimension spirituelle. Je n'oubliais pas aussi dans la dimension morale, la capacité à créer. Hein, donc, à créer par la parole, le langage, et à créer avec nos mains, avec notre réflexion, etc. L'être spirituel, il y a une image et une ressemblance spirituelle de pensée. La pensée de Dieu, tout homme a la pensée de Dieu et la pensée de l'éternité, au-delà de la mort. Tout homme a la conscience de l'immortalité, a la conscience de l'éternité et ces choses. Et tout ça fait que voilà, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et même si on ressemble beaucoup à tel ou tel animal, non, on est quand même complètement différent. Parce que l'important, ce n'est pas tellement le génome ou la biologie, c'est ce que Dieu a mis de particulier en nous. C'est ce qu'il a mis de lui-même en nous. Ces choses disent aussi qui est Dieu. Les conséquences de cette création. Qu'est-ce que cela signifie donc d'être créé à l'image selon la ressemblance de Dieu ? Premièrement, nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Et aujourd'hui encore, malgré le péché, tout homme continue de porter cette marque divine. Je l'écrivais sur un post de ma page Facebook cette semaine, « Chaque homme a suffisamment de valeur pour que Jésus soit mort pour lui. » Et je rajoutais, « Jésus a suffisamment de valeur pour que sa mort s'étende à tous les hommes. » Ça veut dire que quel que soit l'homme aujourd'hui, nous possédons tous une très grande valeur et une très grande dignité. Et Jacques, dans son épître chapitre 3, verset 9, parle encore des hommes faits à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont à la ressemblance de Dieu. Ça n'empêche pas évidemment que l'homme aujourd'hui est spirituellement mort à cause du péché. Mais malgré tout, il y a cette marque de Dieu sur sa vie. Il y a encore cette image, cette ressemblance qui est certes détériorée par le péché, dévoyée. Mais malgré tout, elle demeure. Et à cause de ça, oh, je vais le dire, non, pas forcément à cause de cela simplement, mais Dieu a quand même voulu nous sauver. Alors, je ne dis pas qu'il nous a sauvés parce que nous étions porteurs de son image. Non, Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Mais dans le projet du salut, il y a l'idée de restaurer son image en nous. Le projet du salut, ce n'est pas simplement nous pardonner nos péchés. Le projet du salut, c'est de restaurer l'image de Dieu en nous. Et je dirais même bien plus, nous allons le voir, parce qu'il est question, vous le savez, d'une vie nouvelle. Alors, nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Deuxièmement, nous sommes appelés à refléter cette gloire de Dieu dans le monde. Dieu avait confié à Adam le mandat de remplir, assujettir et dominer la terre et les animaux. Genèse 1, 28, 29. Malheureusement, il s'est laissé abuser par Satan. Mais en Jésus, nous recevons un nouveau mandat et nous sommes appelés à être les ambassadeurs d'un royaume céleste et éternel, le royaume de Dieu, et nous sommes appelés à faire briller la gloire de Dieu dans ce monde. Comme Paul dit, nous sommes des flambeaux portant la parole de vie. C'est un peu l'image qu'on a déjà vue du petit buisson de Moïse. Je ne suis qu'un petit buisson face à l'immensité de la gloire de Dieu. Et pourtant, la flamme descend sur nous et elle ne nous consume pas. Et quand les hommes nous regardent, ils voient ce que Moïse avait vu dans la flamme, c'est-à-dire le Seigneur. Nous sommes des flambeaux portant la parole de vie dans ce monde. Et nous sommes appelés à la faire briller. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je vais en venir à l'essentiel. Et l'essentiel, toujours, c'est Jésus. Et je voudrais que vous puissiez lire avec moi ce verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il est important, vous le voyez à l'écran, mais c'est très bien que vous tourniez quelques instants les pages de votre Bible pour que vous puissiez marquer ce verset, si vous ne le connaissez pas encore, qui nous parle de Jésus. Hébreux 1, 3, et ce verset nous dit, quelle parole extraordinaire. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Le mot grec traduit par empreinte est caractère. En grec, c'est caractère, qui a donné notre caractère à nous. Et caractère en grec signifie une gravure. Une gravure. Considérons ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le livre de la Genèse, 1:26, image vient du mot hébreu tselem, T-S-E-L-E-M, tselem. Ça c'est image, T-S-E-L-E-M, tselem. Et tselem vient de tsel, qui en hébreu veut dire ombre. Tselem, image, vient de tsel, ombre. Ainsi, l'homme ne fut même avant sa chute que l'ombre, la silhouette de Dieu, tandis que Jésus est la représentation parfaite de Dieu. Il est l'empreinte, le caractère de Dieu, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. C'est ainsi qu'il put dire, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et Paul appelle Jésus le nouvel Adam, 1 Corinthiens 15, venu sur cette terre pour créer une nouvelle humanité, non pas tirée de la terre, mais du ciel, par le don d'une vie incomparable, la sienne. En sauvant l'homme perdu, Dieu ne veut donc pas simplement le restaurer selon la condition qui était celle d'Adam avant sa chute. Mais il veut nous donner une qualité infiniment supérieure. Il nous introduit dans une nouvelle humanité, au point que nous pouvons dire « Je suis une nouvelle création ». Je suis une nouvelle création. Je ne suis plus fils d'Adam. Tu n'es plus fille d'Adam. Nous sommes fils et filles de Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus, écoutez-moi, simplement à l'image de Dieu selon sa ressemblance, ce qui était le cas d'Adam. Mais les apôtres sont beaucoup plus hardis. Dans sa deuxième épître, Pierre écrit, chapitre 1er, verset 4, que nous sommes rendus participants de la nature même de Dieu. Nous sommes rendus participants de Dieu. La nature de Dieu est en nous. C'est plus simplement l'image, c'est la nature même de notre Seigneur. La vie de Jésus-Christ qui est en nous. Et bien sûr, encore, cette nature est étouffée à cause de notre incrédulité, de nos limites. Cependant, tout comme la nature elle-même, nous sommes dans l'attente de la pleine et entière révélation, manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous prions pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur lorsque ce que nous sommes sera pleinement manifesté. Un Jean écrit, tel il est, tel nous sommes, nous l'avons étudié. C'était en début d'année, et il est écrit encore, quand nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Mais aujourd'hui déjà, en nous, eh bien, il y a cette nature de notre Seigneur. Alors nous sommes aujourd'hui dans une situation d'attente qui ne doit être en rien inutile. Au contraire, chaque jour, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, nous sommes appelés à revêtir davantage cette nouvelle image de Christ. Regardez maintenant, vous pouvez le lire, 2 Corinthiens 3,18. Et vous allez le lire peut-être avec une nouvelle approche, 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous contemplons dans le miroir? Qu'est-ce que nous regardons dans le miroir? C'est nous que nous regardons, n'est-ce pas? Et quand nous regardons, nous voyons quoi? La gloire du Seigneur. Eh bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et déjà, le Seigneur agit en nous. Et cette image grandit, 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 grandit dans notre vie. La marque de Dieu, l'empreinte de Christ est en nous. Dieu ne nous a pas simplement ramenés à la situation originale de l'Adam premier. Il nous a recréés pour être comme Jésus, pour être participants de sa nature. Tout homme est donc fait à la ressemblance de Dieu. Tout homme. Aucun humain n'est inférieur. Aucun humain n'est supérieur à un autre. Il n'y a rien dans la Bible qui puisse justifier la notion de race supérieure ou de race inférieure. Et donc tout être humain doit être considéré avec respect et amour. Quelle que soit même la dégradation de cette ressemblance à cause du péché dans lequel il peut être tombé. Et si l'on croit le Seigneur, sont certainement ceux dont l'image est la plus dégradée qui ont le plus besoin d'être aimés. Parce que c'est pour eux que Jésus est d'abord venu. Pour ceux qui ont vraiment perdu l'image de Dieu qui était sur leur vie. Pour ceux qui n'arrivent même plus à dire « je suis ». Combien de gens souffrent de ne pas pouvoir dire « je suis » dans le sens où ils n'arrivent même pas à se considérer eux-mêmes. Combien de gens n'arrivent plus à dire « je veux » mais sont complètement emprisonnés par des passions qui les dominent. Combien de gens n'arrivent même plus à dire « j'aime » ou « je t'aime » parce que leur cœur est complètement brisé et déchiré. Et Jésus est venu pour restaurer tout cela, pour nous guérir. Et c'est le plan de Dieu de relever tout homme dans son image. Cependant, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'une amélioration, d'une réparation, d'une restauration d'un chef-d'œuvre en péril. Non. Avec Jésus-Christ, c'est un reboot total. On remet l'ordinateur à zéro. Reset. C'est une recréation totale. Nous avons été recréés. À un autre niveau. Nous ne sommes plus au niveau d'Adam. Mais oui, autrefois, la pensée me vient tout de suite. Nous étions de peu inférieurs à Dieu. C'est vrai ? Aujourd'hui, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens ? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes au même rang que Jésus. Dieu ne nous place pas en dessous. Nous ne sommes pas des demi-frères ou des demi-sœurs de Jésus. Pardonnez-moi mon mot qui va être très cru, nous ne sommes pas des bâtards. Nous sommes au même rang que le Seigneur. Plus en dessous. Au même rang que le Seigneur et donc au-dessus des anges. C'est pour ça que Paul dit que nous les jugerons. C'est quand même beau de savoir ça, de le réaliser. Et pour cela, il était nécessaire que celui qui existait en forme de Dieu de toute éternité vienne sur cette terre des hommes en prenant notre forme, notre ressemblance, jusqu'à se faire le plus petit. N'était-il pas le plus petit à Bethléem ? J'ai presque allé dire que cette crèche était une espèce de nouvel Éden, mais avec des animaux. Mais c'est là qu'il est né. Et puis il a porté nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, jusqu'au bois de la croix. Tout ça pour les anéantir devant Dieu. Et celui-là, bien sûr, c'est Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu. Il est devenu participant de la chair et du sang, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin de nous rendre participants de la nature divine. Il est venu sur cette terre avec la puissance de créer, de nous recréer. Jésus est venu pour nous recréer. Jésus est venu pour te recréer. Spirituellement d'abord, Jean 20, verset 22, lorsque le Seigneur apparaît le dimanche soir au milieu des disciples, il dit qu'il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'était l'acte de la nouvelle naissance, la vie d'en haut qui venait. Et le Seigneur a soufflé sur nous. Et cette vie se diffuse dans toutes les fibres et les recoins de notre être entier. Et au fur et à mesure que cette vie se diffuse, cette vie de l'Esprit, cette vie de Jésus, qu'elle rentre en nous, qu'elle pénètre plus profond de nous, jusque elle va pénétrer dans notre raison, notre conscience, notre volonté, pour dire je ne suis plus simplement je suis fils et fille de Dieu. Pour ne plus dire simplement je veux, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Pour ne plus dire simplement j'aime, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et même pour être capable de créer, de parler les paroles de Dieu. Les paroles qui communiquent la vie, qui communiquent la foi. De créer, d'accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées de toute éternité par son Esprit. Dieu m'a complètement recréé. Dieu t'a complètement recréé en Jésus-Christ. Bien sûr, on a encore ce corps. Nous savons que parfois il est capable de le réparer, hein. Mais au jour de la résurrection, ce corps lui-même sera recréé. Il ne sera plus corps périssable, mortel, douloureux. Il deviendra corps puissant, éternel, incorruptible. Et comme Paul l'écrit, nous sommes dans l'attente de la rédemption de nos corps. Elle viendra bientôt. Alors oui, nous ne disons plus simplement « j'ai été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance », mais nous disons « je porte l'image de Dieu en moi, je suis participant de la nature de Dieu, je suis fils et fille de Dieu. Je porte en moi son caractère, son empreinte. Et mon désir, c'est de devenir son reflet. Et plus son caractère marque ma vie, et plus je pourrai refléter la vie de Jésus. Quelle dignité, quel honneur. Alors je ne sais pas quelle image vous avez de vous-même, et puis celle que les autres rendent de vous-même. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus est venu pour nous restaurer dans toute notre dignité, dans toute notre image, dans toute son image. Il est venu sur terre pour nous guérir du péché. Parce qu'avant de recréer, il fallait d'abord détruire ce qui était corrompu. Il fallait la main du chirurgien pour venir trancher le cancer du péché de nos vies. Mais nous le savons, le clou n'a pas été planté dans nos mains, mais dans ses mains. Et c'est en lui que l'acte a été opéré, et c'est lui qui a souffert. Mais par son sacrifice, nous sommes purifiés du péché. Et à partir de là, Jésus vient partager son image avec nous. Il vient partager l'image de Dieu, la gloire de Dieu avec nous. Paul l'écrit dans les Colossiens, l'espérance de la gloire, Christ en nous. Et ce soir, je suis convaincu que c'est ce qu'il voudrait faire aussi avec quelqu'un. Tu as été créé à l'image de Dieu. Mais peut-être que cette image s'est beaucoup déformée, au point même que tu ne te reconnais plus toi-même. Et tu dis, mais quelle valeur ai-je ? Je n'ai plus de valeur pour les hommes. Tu n'as peut-être même plus de valeur pour tes parents, pour ta famille. Tu n'as même plus de valeur dans ce monde. Tu n'es qu'une statistique du chômage. Si tu le touches encore, tu as de la valeur malgré tout aux yeux de Dieu. Et si je parle comme ça, c'est pour nous rappeler que si Jésus est capable de se mettre petit comme le plus petit, ça veut dire qu'il est capable de porter tous les autres dessus. Et le Seigneur voudrait ce soir te dire que tu as de la valeur, que tu gardes cette image. Et que le Seigneur voudrait faire bien plus. Il ne veut pas simplement te restaurer dans ta dignité humaine. Il est capable de le faire. Il veut faire plus. Il veut te recréer dans une nouvelle dignité, celle de fils et de fille de Dieu, participant de la nature de Dieu. La seule chose que tu dois faire, toi, c'est dire, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon, Seigneur, d'avoir laissé la vie détruire cette image de Dieu et d'être en arrivé là. Et si vous faites cela, alors vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Et Seigneur, ce soir, soufflera en vous la vie d'en haut, la vie nouvelle. Il est capable de vous recréer dès cet instant. On va finir en priant. Y a-t-il quelqu'un ce soir au milieu de nous qui, à l'écoute de ce message, voudrait dire, Seigneur, oui, mon image est bien abîmée, mais ce soir, je veux saisir cette nouvelle identité, cette nouvelle image. Je veux recevoir l'empreinte de Christ, l'empreinte de Dieu dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui, à l'écoute de ce message, voudrait dire, Seigneur, je me rends compte de la valeur que je représente à tes yeux. J'ai eu suffisamment de valeur pour que tu meures à la croix pour moi. Seigneur, viens me secourir de mes détresses. Viens, Seigneur, mon Dieu, me restaurer, me relever. Viens me donner ta force et ta grâce. Ô Seigneur, je veux être ne serait-ce qu'un petit buisson, mais enflammé par la présence du Seigneur. Alors si dans ce message, il y a quelque chose qui a pu interpeller ton cœur la semaine dernière ou cette semaine, et que tu as besoin de prière, je voudrais qu'on prenne le temps simplement. Et je vous demande de lever votre main. Vous qui voulez peut-être faire la paix avec Dieu. Vous qui voulez, eh bien, retrouver pleinement cette restauration, ce renouvellement de votre vie, de votre dignité. Le Seigneur, ce soir, vient toucher ta vie. La main de Dieu a formé la dent de la terre, Et ce soir, la main de Christ percée à la croix pour toi vient comme te toucher, pour te dire, je te donne la vie. Je te donne la vie. Je te pardonne de tes péchés. Et le Seigneur veut souffler sur toi en te disant, reçois l'esprit de vie. Reçois cette nouvelle empreinte. Tu vas devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Et tu vas être élevé en dignité dans la présence de ton Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te prie pour tous ces frères, ces sœurs, ces amis qui sont là. Tu sais comment la vie peut déformer en nous l'image de Dieu. Les blessures, les mauvaises décisions, le péché, les addictions, les paroles blessantes. Mais ce soir, je crois que tu peux faire une œuvre de recréation. Nous avons vu, Seigneur, qu'il n'y a pas d'homme supérieur à un autre. Nous avons tous été créés, tirés de la même terre. Nous avons tous été formés par la même main. Nous avons tous reçu le même souffle de vie. Et nous avons tous été, Seigneur, nous sommes tous tombés dans le péché. Mais tu nous as donné pour tous Jésus-Christ. Et si chacun, nous avons suffisamment de valeur pour que Jésus soit mort pour nous, Jésus a suffisamment de valeur pour mourir pour tous les hommes. Alors je te prie maintenant, Seigneur, de faire ta œuvre. Je te prie de nous guérir du péché. Je te prie, Seigneur, de détruire cet homme qui est tombé et de commencer à faire naître en nous, à faire grandir au milieu de nous l'homme nouveau, la femme nouvelle que tu élèves à la dignité de fils et de fille de Dieu. Seigneur, ce soir, je crois que tu prends quelqu'un par la main. Tu viens le chercher et tu lui dis, viens. Assis-toi avec moi sur le trône de Dieu. Assis-toi avec moi ce soir et viens partager cette position. Et le Seigneur vient te secourir et il veut commencer à te transformer. Et nous tous, nous disons, Seigneur, continue ton œuvre en nous. Continue, nous qui sommes porteurs de l'empreinte de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, travaille en nous pour que nous puissions maintenant refléter cette lumière, pour que nous puissions la laisser se manifester, pour qu'un jour, Seigneur, en nous regardant nous-mêmes dans le miroir, nous voyons Jésus-Christ s'y refléter. Seigneur, merci. Parce qu'alors qu'autrefois nous étions enfoncés dans la boue du péché, maintenant nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes héritiers au même rang que Christ. Nous sommes participants de ta nature divine. Et c'est vrai, Seigneur, nous disons Maranatha, parce que, Seigneur, nous attendons le jour où notre nature sera pleinement révélée. Mais d'ici là, œuvre en nous. Œuvre en nous, Seigneur. Transforme-nous encore. Nous voulons vraiment être ces fils et ces filles du nouvel Adam. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alors je finis en vous disant...